Elle avait fait ce qu'elle faisait d'habitude. En arrivant au bureau, elle alluma toutes les machines, les lumières, l'ordinateur, les enregistreurs et l'imprimante, et commença à parcourir la nouvelle pile de formulaires, les travaux des étudiants, les emails administratifs, les formulaires de santé, les sites, les blogs, les mises à jour de statut sur les réseaux sociaux, les messages vocaux, les photos et les vidéos. En même temps, sa main parcourait ses cuisses, puis sous sa blouse, ses seins et ses côtés, jusqu'à ce qu'elle la sente, une tique brun noir enfoncée dans sa peau. Elle se leva, la retira précautionneusement avec une pince à épiler, l'emmena aux toilettes, tira la chasse et se lava les mains. Elle interrogea alors Internet en quête de conseils et d'augures. Internet disait que si la tique n'était restée attachée qu'un instant, alors on ne tomberait pas malade. Mais Internet avertissait également qu'on tomberait malade si la tique vomissait dans votre sang, ce qui était précisément ce que la tique faisait dès qu'elle se fixait. Internet disait qu'il fallait faire un test sérologique, mais prévenait aussi de possibles faux négatifs, de compagnies d'assurance refusant de couvrir ce risque, de formulaires, requêtes et lettres sans fin. Internet suggérait divers remèdes alternatifs et traitements. Les tiques étaient porteuses non seulement de l'anaplasmose, de la babésiose, de l'ehrlichiose et de la maladie de Lyme, mais aussi remplies de mycoplasma fermentans sinconitus militarisé, résultant d'expériences nazies relocalisées après la guerre dans une île au large de Lyme, Connecticut. Internet disait que les infections pouvaient être transmises non seulement par les tiques, mais aussi par l'intermédiaire du lait maternel. Et bien que niant la possibilité d'une transmission par le sperme, les sécrétions vaginales ou la salive, il notait que quand deux souris du même sexe, l'une infectée et l'autre non, étaient placées dans une même cage, elles se retrouvaient toutes deux infectées. Son matériel d'enregistrement était éparpillé sur son bureau, parmi les nombreuses piles, et plusieurs fenêtres associées étaient ouvertes sur l'écran de son ordinateur. Elle travaillait à une création sonore, construite à partir d'un recueil de sons. Une pièce qui rassemblerait toutes ses connaissances, et ses impressions de ce que pouvait être une prison militaire dans un pays étranger. Des corps contenus à l'intérieur, leurs mouvements, actes et sons, et qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient prendre une forme musicale, ou contestataire, ou autre, mais elle ne savait pas quoi. Contrairement à ce qui s'était passé pour ses précédents travaux, les sons trouvés sur Internet ne lui fournissaient pas de façon évidente des notes, accords ou mélodies pour représenter ce qu'elle voyait, ce qu'elle lisait, ce qu'elle ressentait. Elle se tortillait sur son siège, de gauche à droite, tout en se concentrant sur les sons et les images fournis par les moteurs de recherche sur Internet, essayant d'imaginer des ondes sonores invisibles émanant de l'aura de chaque image, du rire figé de chaque soldat, de chaque bouche de prisonnier couverte de rubans adhésifs. Ses compositions avaient tendance à être mélodiques et riches. D'habitude, sa musique s'intéressait à des choses comme les corbeaux. Pas n'importe quel corbeau, mais les derniers palala, ces corbeaux hawaïens qui portaient les âmes des morts dans le monde souterrain et qu'on conserve aujourd'hui dans des cages car la race est éteinte à l'état sauvage. Ou bien des choses comme une goutte d'eau. Par exemple, une goutte d'eau que se disputaient des entreprises multinationales et un mouvement de résistance armée à Cochabamba en 1990. La musique était pour elle une pause de la représentation. Mais elle essayait tout de même de retranscrire par sa musique ce que c'était de penser ce qu'elle pensait, d'éprouver ce qu'elle éprouvait, quand il était question des derniers halala ou de la goutte d'eau de Cochabamba. Elle pouvait commencer par un accord danse, qu'elle laisserait résonner en mode phrygien, lydien, dorien, locrien ou éolien, selon ce qui lui semblerait représenter le mieux l'alala ou la goutte d'eau de Cochabamba. Elle écouterait alors les réverbérations de chaque note et de chaque accord, et ses émotions la guideraient dans la composition. Ses compositions étaient dépouillées et lyriques. Elles étaient pleines de lamentations et de manques. Mais ce jour-là, elle sentit que les circuits de toutes les machines et sites web qu'elle avait parcourus, ce qui faisait le lien entre l'anaplasmose, la babéliose, l'ehrlichiose et la maladie de Lyme stétique, les microplasmas fermentant syncognitus militarisé, et ceux qui montraient des images effrayantes de torture auxquelles la nation dans laquelle elle vivait soumettait des citoyens d'autres nations, couraient dans son sang, dans ses méridiens nerveux et ses intestins. Une sensation douce de mal-être la faisait frémir. Quelques heures plus tard, elle réalisa qu'un petit mamelon était en train d'émerger de son côté, ou peut-être seulement une ecchymose, semblable à un mamelon, là où la tique avait pénétré en elle. C'était pourpré brun et blanc jaune. Autour, il y avait une éruption rouge. Ce n'était pas douloureux et ça ne démangeait pas. C'était simplement là, là où ce n'était pas avant. Après seulement quelques heures, pas le délai de 2 semaines promis par l'Internet avant que l'éruption apparaisse.
Elle resta donc assise à écouter. À naviguer et visionner et cliquer et penser, collecter, télécharger et sauvegarder, tout en s'inquiétant de la morsure de la tique qui pourrait bien la lancer un peu trop.
Elle visionna les témoignages de différentes auditions gouvernementales,
écoutant la cadence et l'intonation de chaque voix, tout autant que les détails et les tournures évasives. La syntaxe torturée nécessaire pour minimiser ce que nous avions tous commis par la faute de quelques-uns. Elle démarra plusieurs vidéos simultanément et, dans le vacarme du bruit blanc et des parasites, elle isola la voix d'une protestataire solitaire, interrompant le cours d'une audition depuis le fond d'une des salles au cri de « Brûlez-le ! Brûlez-le ! Brûlez-le !
Brûlez-le !»
avant d'être expulsée par 3 hommes, avançant le dos droit, Sa tête baissée, son bras droit tenu dans son dos et son bras gauche protégeant le bébé qu'elle portait dans une écharpe suspendue à son cou. Pendant tout ce temps, elle se demanda comment un échantillon numérique copié-collé pourrait, d'une manière ou d'une autre, capturer l'intégralité de ce qu'elle voyait, pensait et ressentait là. Toutes les implications que cela entraînait pour son art. Son désir d'une action juste dans le monde extérieur à son ordinateur, ses enregistreurs et mixeurs, son bureau et sa propre vie isolée. Elle savait que ce serait facile de trouver un sample d'une porte de cellule claquée brutalement dans une prison, mais elle voulait le son de la vraie porte de cellule, ici, celle des photos sur son écran. Elle trouva plusieurs samples de gardes de prison criant, de clés dans des serrures métalliques, de balais serpillères militaires passant sur le sol depuis des seaux à moitié remplis. Mais elle voulait entendre les vrais gardes dans les vraies photos, leur voix, leurs clés, leur manche à balai. Elle savait que les sons seraient les mêmes quelle que soit leur source, rien que des bits de données à traiter. Et elle savait que de la même façon, les sons seraient indistincts à l'oreille. Rien que des ondes sonores flottantes et invisibles à décrypter. Mais cela était important pour elle, néanmoins.
À force de se débattre avec sa composition, elle se sentit fiévreuse et un peu faible. La fièvre avait suffi à la rendre un brin confuse au fil de la journée. Elle ressentait des choses qu'elle n'avait pas ressenties auparavant. Elle n'aimait pas se retrouver à taper du pied pendant qu'elle notait des contrôles ou à hocher la tête en signant des formulaires en 3 exemplaires, mais elle ne parvenait pas à s'en empêcher. La fièvre ne l'empêchait pas d'agir. Elle semblait lui donner de l'énergie. Elle voulait écrire au-delà de sa solitude, faire de la musique par et pour une colère partagée, venant d'eux et destinée à un nous plus vaste, voir comment la violence nous assaille de tous côtés et menace de nous contaminer, et comment l'exprimer. Mais elle ne savait pas comment faire pour que la musique soit une démangeaison dans le sang chaud de la chair d'oreille, pour qu'elle rouille dans les chakras plus bas. Comment insuffler en elle et en n'importe qui une impulsion à agir qui pourrait être assemblée dans un chant, à supposer que les chants puissent piquer comme un dard, un chant qui pourrait sauter un temps et précipiter le cœur dans la fournaise et la furie, puis faire le fier, bégayer pour après tout hocher la tête, tête cognant dans un rien à foutre de crainte et de désir, poing levé et dansant le slam, jusqu'à ce que les prisons brûlent. Rien de tout cela ne semblait possible, mais c'est cela qu'elle souhaitait rendre possible. Dans ce poing levé imaginaire et symbolique, elle voyait une main empoignant un gourdin brun noir, et elle voulait cela aussi. Elle voulait le son d'un bâton frappant avec rage, démolissant ses samplers et ses boîtes à rythme, ou le son de la matraque d'un garde de prison frappant contre les barreaux de métal d'une cellule, ou le son d'une matraque frappant un corps, le son du plastique dense du bâton droit rencontrant la chair et les os, un son à la lisière entre claquement et martèlement. Pendant qu'elle touchait du doigt de sa main gauche le mamelon contusionné, elle cliquait de sa main droite sur une vidéo en ligne montrant un groupe de soldats battant un homme encapuchonné à coups de matraque. En regardant la vidéo, elle zooma sur les marques de coups et les blessures du corps torse nu, les ecchymoses en forme de cible et les bosses se dissolvant en cascades de pixels au fur et à mesure qu'elle zoomait. Elle commença à hocher la tête au rythme des mouvements disjoints de chaque garde de prison, de haut en bas, zoomant en avant, en arrière, jusqu'à ce que les matraques deviennent des baguettes de batterie. Sa tête cogna contre le bureau, faisant un son se situant quelque part entre un martèlement et un claquement. Elle baissa le son de la vidéo et pressa le bouton du sampler, recommença à cogner sa tête contre le micro au rythme des coups dans la vidéo, pendant que les piles d'articles et des dossiers s'entrechoquaient et tombaient par terre. À chaque craquement et à chaque martèlement, elle se sentait en vouloir encore plus, jusqu'à ce qu'elle commence à avoir l'impression que c'était elle qui contrôlait la levée et la chute des matraques sur l'écran. Elle continua à travailler ainsi un grand nombre de jours, et tout du long, la morsure de tic continua à palpiter. Chaque jour, elle attrapait la manette du sampler et pointait, cliquait et faisait glisser tout en regardant l'écran ses pixels pulsatiles, traçant les niveaux et les durées dans son mix, pensant aux choses qui étaient là-dedans. Comment la douleur, le travail et les clés dans les serrures et les serpillères dans les seaux pouvaient devenir aussi abstraits. Comment les sons d'un corps pouvaient être réduits à des matrices de données, des flux d'informations, des sons et des couleurs désamarrés, de vagues signaux et sensations sur son écran et dans son cerveau, dans son flux sanguin et dans ses tripes, dans son corps bien nourri, blanc et pulpeux. Finalement, elle retourna chez la spécialiste. Elle dit à Laura : « Pourquoi croyez-vous que je suis si malheureuse ? Mes compositions mêlent le sens du devoir, les expériences difficiles et une odeur puante de merde et de diesel sur mes mains. Je suis brûlante, mais je ne réduis rien en cendres. Je n'arrive pas à penser, je n'arrive pas à écrire. Non seulement je ne contrôle pas mes pensées, mais ce ne sont même pas mes pensées. Laura sourit patiemment pendant qu'elle lui listait les médicaments, lui rappelant de respirer profondément en son corps pour éprouver impasse et contagion, lumière froide et sororité intérieure.